La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Votes cast 126, majority required.
Voix exprimée 126. Majorité requise 64. Voix en faveur du candidat proposé par le Conseil exécutif 123. Contre, une voix. Monsieur Amadou Matambo a donc obtenu la majorité absolue. Je le déclare élu directeur général de l'UNESCO pour une période de 6 ans.
And I therefore declare him to have been elected Director General of UNESCO for a period of 6 years.
Nous sommes le 15 novembre 1974 au siège de l'UNESCO à Paris. Pour la première fois dans l'histoire, un Africain est élu à la direction de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Son nom est déjà une légende. Il s'appelle Amadou Matarambo.
Avant de prononcer le serment rituel, je voudrais d'abord accomplir aussi un autre rite. Il s'agit, comme cela se fait toujours, dans le continent d'où je viens, de prendre congé solennellement ici devant vous de l'Afrique, des pays du tiers-monde et des membres du groupe 5 qui ont été les soutiens les plus fermes de cette candidature. Voyez, je prends congé d'eux parce que désormais, je suis le citoyen de chacun de vos pays. Je suis et je vais demeurer le serviteur de la totalité de vos États membres.
Né le 20 mars 1921 au Sénégal, Amadou Matarambo a tout juste 100 ans en 2021. À l'instar des hommes et des femmes de sa génération, il incarne l'invention d'une Afrique émancipée du joug colonial, fière de sa tradition culturelle, philosophique et religieuse, riche de la diversité de ses langues et de ses terroirs. Avec le sociologue Lamine Sagna, le philosophe Souleymane Bachir Diagne et l'historien des idées Mamadou Diouf, nous vous invitons à découvrir la voie et la méthode d'un homme dont l'engagement pour la liberté, la justice et l'égalité est indissociable de son nom, Amadou Matarambo.
J'appartiens à une génération d'Africains avec une véritable soif de connaissance parce que justement, le savoir moderne nous était pratiquement interdit. Nous devions être formés pour occuper des positions subalternes dans le système colonial. Et une volonté s'est développée chez beaucoup d'entre nous de pousser le plus loin possible.
Mamadou Lamine Sagna, une légende à raconter, c'est votre livre. Vous êtes un sociologue, vous êtes aussi un grand admirateur d'Amadou Matarambo. Bienvenue dans la marche du monde.
Merci de m'avoir invité.
Mamadou Lamine Sagna, j'aimerais que l'on définisse la singularité de Amadou Matarambo. Et d'abord, ce qu'il représente pour vous.
Amadou Matarambo, sa singularité, c'est d'avoir été éduqué dans un environnement rural et ayant gravi les échelons les plus importants de la vie moderne et d'avoir pu concilier les deux. Amadou Matarambo est né à Dakar, mais il a grandi à Louga, dans une région Wolof du Sénégal. Il a eu ses premières formations éducatives et coraniques dans cet environnement-là.
Comment faut-il imaginer l'enfance de Amadou Matarambo ?
La façon dont Amadou Matarambo parle de son royaume d'enfance, comme le dirait Senghor, c'est vraiment que du bonheur, puisqu'il a été choyé par sa maman et les co-épouses de sa maman. Par ailleurs, il raconte comment il a pu s'amuser avec ses copains d'enfance, par exemple lorsqu'il courait derrière les trains qui venaient de Dakar.
Selon vous, Mamadou Lamine Sagna, à quel moment Amadou Matarambo a-t-il compris que la résistance au colonialisme, à la colonisation, passait par l'éducation ?
Je pense que Amadou Matarambo a pris conscience de la résistance au colonialisme lorsqu'il a été à l'école primaire. Et quand son maître comparait la tête d'un nègre avec celui d'un singe. Et puis, il y avait une expression qui consistait à dire que Abo lavait la tête d'un nègre, on perd sa lessive.
Des propos d'une violence raciste.
D'une violence incroyable. Vraiment incroyable. Et je pense que c'est là qu'il a pris conscience de l'importance de l'éducation et de retourner précisément ses outils contre le colon lui-même.
J'ai grandi dans une région du Sénégal chargée d'histoire.
Amadou Matarambo.
Avec des générations qui avaient pratiquement vécu la période de la conquête européenne. J'ai grandi à Louga. Louga et les environs de Louga constituent une région où des affrontements nombreux ont eu lieu au XIXe siècle, pendant que les Français, partant de la région de Saint-Louis, entreprenaient la conquête de ce que l'on peut appeler le cœur de ce Sénégal entre le Ndiambour et le Kayor actuel. Et quand dans ma famille, je revenais de l'école primaire avec mon livre d'histoire de l'Afrique occidentale française de Mono, et que j'apprenais à haute voix, c'était une tradition que nous avions héritée de l'école coranique, et que je citais des noms qui étaient connus dans ma famille, on me demandait toujours de traduire ce que je disais, ce que j'apprenais. Quand je le traduisais, j'avais une tante qui pratiquement m'a élevé, qui contestait la version historique telle qu'elle figurait dans les manuels qui me servaient à apprendre l'histoire de l'Afrique occidentale. Je me suis retrouvé donc devant la situation d'un Africain à l'école primaire, apprenant l'histoire selon la vision coloniale, mais vivant dans une famille où l'on contestait cette histoire.
Dès les bancs de l'école, Amadou Matarambo est confronté à la violence de la colonisation, des injures racistes de son instituteur jusqu'à l'effacement de l'histoire de l'Afrique. Mais à la maison, ses tantes lui transmettent inlassablement les grands récits de Lad Dior, le dernier roi du royaume du Kayor, ou de Samori Touré, l'empereur rebelle, les grands héros africains de la résistance contre les Français. Et s'il retient si bien leur nom, c'est grâce à l'apprentissage du Coran.
Alors, je crois que la meilleure manière de comprendre ce que l'école coranique peut signifier pour le jeune Amadou Matarambo, on peut se reporter aux premières pages du livre de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë.
Souleymane Bachir Diagne, professeur de philosophie islamique à l'Université de Columbia, à New York.
Où il raconte justement l'expérience d'un enfant qui est à l'école coranique, qui essaye de mémoriser les versets du Coran alors même qu'il ne les comprend pas. C'est donc des versets dont il sent bien l'importance, dont il sent bien la beauté et qu'il mémorise au fond sans en comprendre la signification. Il s'agit véritablement d'emmagasiner des versets qui vont ensuite être restitués dans les prières, parce que pour faire sa prière, il faut pouvoir réciter un certain nombre de versets. Et c'est donc un exercice de mémorisation qui est très important pour le développement cognitif de l'enfant. Et c'est également un exercice de socialisation. L'école coranique, si on retourne encore une fois au texte de Cheikh Hamidou Kane, il explique par exemple que le maître, pour leur enseigner l'humilité, les envoyait mendier de maison en maison. Pour leur apprendre d'abord la solidarité, ils mendiaient ensemble. Le fils de prince et celui qui n'était pas fils de prince, et ils apprenaient ainsi l'humilité. Donc c'est vraiment une école de la vie, et j'ai toujours entendu beaucoup de personnes dire que l'éducation, la première éducation reçue à l'école coranique, leur avait ouvert la voie, y compris des études laïques de l'école républicaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc je pense que ça a été effectivement une expérience centrale dans la vie d'Amadou Matarambo, et j'associe véritablement, c'est la même génération à quelques années près que celle de Cheikh Hamidou Kane, et je crois que véritablement dans son roman, Cheikh Hamidou Kane a capté la signification profonde de l'expérience de l'école coranique.
c'est l'une des clés que vous pointez ici dans la trajectoire de Amadou Maktambo. Je crois que l'école coranique a joué un rôle fondamental.
Lamine Sagna, sociologue.
Jusqu'à 9 ans, il étudiait donc l'école coranique. Amadou Maktambo, ce qu'il a appris de l'école coranique, c'est d'abord, il a une mémoire extraordinaire, il est centenaire, mais même aujourd'hui, si vous discutez avec lui, il a une mémoire meilleure que la mienne. Il me dit l'avoir forgé à partir de l'école coranique. Ceci dit, il s'en est servi aussi, puisque la discipline lui a permis de pouvoir aller à l'aise dans l'école française.
Amadou Matarambo fait des études tout à fait brillantes. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y a que deux grands lycées au Sénégal, à Saint-Louis et à Dakar. Rappelons qu'avant l'indépendance, certains Sénégalais ne sont pas des sujets de la colonisation, mais sont des citoyens.
C'est ça.
Et ça, c'est une des dimensions aussi, finalement, des origines de Amadou Maktambo.
Tout à fait, puisque Amadou Maktambo est né à Dakar, et Dakar faisait partie des quatre communes. Les habitants de ces quatre communes étaient considérés comme des citoyens français. Donc, Amadou Maktambo a su intégrer l'école française plus tard, après la guerre, en fait, le lycée ici à Paris. Mais auparavant, il était commis au gouvernorat du Sénégal. Donc, c'est là qu'il a eu de belles rencontres.
Racontez-nous cette scène.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Alors, il y a une anecdote assez drôle parce que le jeune Amadou Maktambo est commis dans l'administration française. Il travaille au cabinet du gouverneur de Dakar.
Amadou Maktambo travaille au cabinet du gouverneur. Et chaque fois, il avait un dictionnaire à côté. Le chef de cabinet du gouverneur lui demande « Est-ce que vous avez une fois fait de la dissertation ?» Et Amadou Maktambo répond « Non ». Alors il lui a dit « Je vais vous apprendre comment on fait une dissertation ». Et c'est ainsi que ce chef de cabinet, qui était un professeur de droit, l'a entraîné dans ce domaine et l'a beaucoup aidé.
Ce qui est très intéressant dans le parcours de Amadou Maktambo, sous le signe de l'éducation, c'est qu'il ne s'arrête pas à ce niveau d'études qu'il a pu acquérir à l'âge de 17 ans, mais il continue après la guerre, il continue et il obtient son bac à 26 ans.
Ouais.
Expliquez-nous, Mamadou Lamine Sagna, pourquoi Amadou Maktambo, qui était plutôt dans une filière scientifique, voire technologique, s'inscrit en histoire à la Sorbonne, à Paris.
Oui, il y a deux raisons principales d'après ces explications. Premièrement, Amadou Maktambo a remarqué que les filières scientifiques, généralement, c'est là qu'on orientait la plupart des jeunes Africains pour en fait jouer le second rôle. D'autre part, il était très intéressé par les sciences sociales, mais aussi la littérature et toutes ces questions-là, notamment par l'influence d'Abdoulaye Ly, le premier Africain à être agrégé en histoire, qui était un grand frère pour lui. Et donc, ils se sont retrouvés à Paris. C'est ainsi qu'il s'est inscrit, après son baccalauréat, à la Sorbonne.
Ma rencontre avec l'histoire date de la période de mon enfance.
Amadou Maktambo.
Donc, quand j'ai voulu faire des études supérieures à la Sorbonne, je ne dis pas que je n'ai pas hésité. En fait, mon souci était d'entreprendre des études parce que j'avais déjà 27 ans, j'avais fait la guerre, était d'entreprendre des études qui soient en rapport avec le combat que je pensais devoir mener avec d'autres au niveau de l'Afrique. Je peux peut-être vous révéler aujourd'hui que la veille de la mort de ma propre mère, qui est morte pendant que j'étais très jeune, nous avions dû se parler pour la première fois des problèmes d'avenir. Et il me disait, mon fils, tu devrais peut-être faire apprendre à soigner dans la médecine plus tard quand tu seras grand. Je disais, moi, je vais apprendre à apprendre aux autres. Et cette détermination est restée. Donc, j'avais une vocation de professeur pour une double raison. D'abord, parce que cela répondait à mes tendances, à mon souci d'apprendre et d'apprendre aux autres et de faire apprendre aux autres. Mais aussi, ça répondait, à mon avis, aux exigences de ce que je considérais comme le combat de l'Afrique à l'époque. Il fallait d'abord démystifier beaucoup de choses, faire comprendre aux jeunes Africains la réalité de leur peuple et les amener à assumer la plénitude de leur condition et à œuvrer pour le changement de cette condition. Et bien entendu, quand je suis devenu professeur, j'avais à appliquer des programmes, mais je me suis efforcé aussi à travers ces programmes de faire apparaître la réalité historique, non pas telle qu'elle figurait dans certains manuels, mais telle qu'elle apparaissait à travers un esprit critique et non pas à travers l'idéologie qui était l'idéologie coloniale de l'histoire. En somme, on nous apportait la civilisation, etc. Nous étions les barbares. Je dis toujours d'ailleurs aux Européens qu'il faut qu'ils surmontent leur vision, qui est une vision très ancienne, de l'existence d'un côté des civilisés et de l'autre des barbares. Je pense que cette vision, malheureusement, n'a pas encore tout à fait disparu. Je pense du principe que chaque peuple a une civilisation, que toutes les civilisations sont égales en dignité et que peut-être il faut fonder la compréhension entre les nations sur le respect de l'identité culturelle de chacune d'entre elles.
Lorsque Mamadou Matarambo est étudiant à Paris, il n'est pas le seul, je dirais que l'élite africaine est là. Il est là avec son ami, Abdoulaye Lee. Et ensemble, ils vont avoir un regard assez critique finalement sur l'association des étudiants coloniaux. Ils vont décider de créer l'association des étudiants africains. On sent un vent de liberté dans cette dénomination. Mmh. Et surtout, ils vont être à l'origine de la fameuse FEANF, qui est un laboratoire politique incroyable. Alors pour nos jeunes auditeurs, on va expliquer ce que c'est que la FEANF et surtout dans quel esprit Amadou et Abdoulaye créent la FEANF.
Oui, l'association des étudiants coloniaux, ils ne se sentaient pas très à l'aise dedans avec Abdoulaye Lee. Ils ont décidé donc de créer une association d'étudiants africains. Donc c'est cette association d'étudiants africains qui ne voulait ni du colonialisme, de l'impérialisme, comme il disait à l'époque, mais aussi du communisme.
Alors Amadou Matarambo lit un livre de Staline qui s'appelle « La question nationale et coloniale ». Qu'est-ce qu'il en pense ?
Il pense que précisément la question nationale et coloniale, Staline presque veut reproduire une sorte d'impérialisme, puisque dans la question nationale et coloniale, il se rend compte que l'Afrique serait comme un réservoir.
De futurs prolétaires.
De futurs prolétaires.
Ça l'énerve beaucoup.
Oui, ça l'énerve, parce que considérer que c'est que des prolétaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont que de force de travail à vendre, ils n'ont pas autre capacité de se développer, de s'autodéterminer en réalité. Et donc tout ça a contribué à prendre une distance par rapport au marxisme-léninisme. Et je pense que dans le fond, ils n'ont pas eu tort.
Pourquoi Amadou Matarambo et ses amis, dont Abdoulaye Lee, sont-ils fascinés justement par la conférence de Bandung en 1955 ?
En 1955, c'est une date clé donc, pour tous ces intellectuels africains, Amadou Matarambo, les grands intellectuels comme Abdoulaye Lee et autres. C'est précisément de ne pas s'aligner ni du côté des États capitalistes, ni du côté des États marxistes. Que ce soit le communisme ou le capitalisme, c'est le même paradigme, c'est-à-dire l'intérêt utilitariste, qui ne tient donc pas compte de l'évolution ou de l'être humain en tant que tel, mais comment il peut servir pour la production. Et donc, je pense qu'il voulait aussi montrer que les Africains ne sont pas inférieurs du point de vue de la pensée aux États du Nord, y compris communistes. Je pense que Bandung était extrêmement important. De toute façon, je crois que c'est cette ligne qu'il va développer plus tard, y compris à l'UNESCO et dans sa lutte politique. Amadou Matarambo, comme il le dit souvent, il est un homme de Bandung.
the Asian African Conference, in another surprising development, Communist China's Zhou Enlai proposes, then all but rejects, talks on the Formosa crisis. 29 nations, with a population of more than 1.4 billion persons, attend the historic conference in Indonesia's capital city of Bandung.
Si Amadou Matarambo est un homme de Bandung, cherchant une troisième voie entre le communisme et le capitalisme, comment envisage-t-il son combat de militant au sein de la Fédération des étudiants africains en France?
Pourquoi d'ailleurs avions-nous fondé l'Association des étudiants africains de Paris et pourquoi avions-nous fondé la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France?
Amadou Matarambo.
Ce n'était pas seulement dans un but de contestation, c'était pour affirmer notre existence. Il existait une sorte d'association des étudiants coloniaux au moment où nous avons fermé l'Association des étudiants africains de Paris. Et notre but, c'était d'abord de pouvoir vivre en commun, nous retrouver et recréer cette solidarité qui était la base même de notre vie commune africaine, défendre nos intérêts matériels afin de pouvoir achever nos études en France. Beaucoup de nos aînés étaient morts en France de tuberculose. Et une de nos premières réalisations, dans le cadre de l'Association des étudiants africains de Paris, c'était justement de créer un service médical avec un dépistage systématique de la tuberculose. Et beaucoup de nos camarades d'ailleurs ont été admis en France, qui dans un sanatorium, qui dans un hôpital, parce que affectés par des maladies pulmonaires. Mais nous voulions dépasser le cadre strict de la défense de nos intérêts matériels. Nous pensions également que notre séjour en France devait nous permettre de prendre conscience de notre condition de colonisés, de la condition de nos peuples en tant que colonisés, et nous préparer également à combattre pour la liberté de nos peuples. Nous ne nous sommes jamais cachés. Mais cela ne veut pas dire que nous devions prendre un engagement politique en France, engagement politique lié à quelque parti politique que ce soit en France. Nous estimions que notre combat se situait au niveau de notre continent, parmi notre peuple, et que c'est ce peuple qui devait lutter, non seulement pour obtenir sa liberté et son indépendance, mais aussi pour créer son avenir.
Amadou Matarambo est né dans une famille musulmane, dans un pays, le Sénégal, où l'islam est composé de plusieurs confréries, et notamment de la Tijaniya, lien spirituel entre le Sénégal et le Maroc, source d'inspiration pour la vision unitaire de l'Afrique, défendue par Amadou Matarambo. Et c'est Souleymane Bachir Diagne, professeur de philosophie à l'Université de Columbia à New York, qui en parle le mieux.
La Tijaniya, qui est le nom de cette confrérie, est une confrérie née au Maroc, née à la fois en Algérie et au Maroc, parce que le fondateur de la confrérie au XVIIIe siècle est né en Algérie, à Aïn Mahdi, et enseignait sa voie à Fès où il s'est installé, à Fès où il est mort et à Fès où il est également, où se trouve aujourd'hui son mausolée. Mais cette voie soufie s'est véritablement répandue en Afrique de l'Ouest, principalement au Sénégal et au Nigeria. Et en particulier le Sénégal est vraiment un centre religieux de la Tijaniya. Et c'est ainsi que des maîtres locaux au Sénégal ont développé la Tijaniya et la capitale spirituelle de la Tijaniya au Sénégal. Il y en a quelques-unes. C'est pour l'essentiel la ville de Tibaouane. C'est également la ville de Kaolack pour une autre branche de la Tijania. Donc, comme toutes les voies soufies, cette voie est caractérisée par la récitation par les disciples d'un certain nombre de litanies, individuellement ou collectivement. Et le Sénégal baigne véritablement dans une atmosphère de la Tijania dès que, quand vous écoutez les mosquées, tous les matins, après la prière elle-même, on entend les litanies précisément qui sont psalmodiées par les disciples tidianes. C'est la même chose à la tombée du jour. Donc au lever du jour, à la tombée du jour, on entend les mosquées de la plupart des villes sénégalaises et des villages sénégalais aussi deviennent des mosquées de la Tijania. Le fait que cette confrérie soit née au Maroc, mais qu'elle ait véritablement trouvé son développement le plus important en Afrique subsaharienne, dans l'Ouest africain et en particulier au Sénégal, ceci a créé des liens très forts entre le Sénégal et le Maroc. Et on voit d'ailleurs que Amadou Martambo a des liens très forts avec le Maroc. Je crois pouvoir dire que c'est vraiment le Maroc est véritablement son deuxième pays.
Mais est-ce que néanmoins la Tijania a permis aussi naturellement pour Amadou Martambo de considérer l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne comme une?
Oui, alors justement c'est ce qui est important, parce que cette manière de considérer que l'islam en général et la confrérie de la Tijania en particulier crée des liens très forts entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne a nourri ce panafricanisme qui a été un panafricanisme complètement déracialisé. Parce qu'il faut dire que le panafricanisme venu du Nouveau Monde et qui s'est continentalisé par la suite était un panafricanisme tourné davantage vers l'unité du monde noir, dirons-nous. Tandis que l'idée du panafricanisme telle qu'elle a été défendue par la suite par quelqu'un comme Nkrumah, c'était un panafricanisme, comme il l'a dit et écrit, qui allait du Caire au Cap, qui n'avait plus du tout cette dimension racialiste. Et donc, c'était véritablement la continentalisation, si je puis dire, du panafricanisme. Et certainement, le sentiment que les liens entre l'Afrique du Nord et l'Afrique dite subsaharienne sont des liens extrêmement fort, extrêmement ancien et nourri par justement cet attachement à la même spiritualité religieuse de l'islam et de la Tijania en particulier. Tout cela a fait que Amadou Martambo a embrassé de manière tout à fait naturelle l'idée d'un panafricanisme continental qui réunirait de part et d'autre du Sahara le monde maghrébin et le monde subsaharien.
Lamine Sagna, la méthode Mbou, la méthode éducative qui passe par le dialogue, par la pédagogie, c'est une méthode qui permet également à Amadou Matarambou de convaincre les ralifs de la confrérie Mouride, qui est la confrérie musulmane la plus importante au Sénégal, d'accepter d'ouvrir une école.
À cette époque, dans aucune ville Mouride, il y avait une école, puisque les populations avaient peur que leurs enfants deviennent comme des blancs.
C'est-à-dire
des gens qui ne vont pas pratiquer la religion, ils vont se comporter d'une certaine façon qui n'est pas la façon africaine qu'ils attendent. Et donc, Amadou Martambo a montré par son comportement aux populations que lui qui était considéré plus ou moins comme une référence, que si lui il est capable de faire ça, ça dépend des êtres humains en réalité. Mais pour cela, il a créé des conditions de confiance avec les marabouts, les populations locales. Tous les deux jours, il allait rendre des visites de courtoisie aux marabouts, à discuter avec les populations, à essayer de comprendre leurs problèmes. Et voilà, donc c'est dans ces conditions-là que les populations lui ont dit qu'ils pouvaient aider à la création d'une école à Dar Mousti. Mais il y a un autre exemple assez intéressant, toujours en Casamance, dans le village de Youtou. Et cette expérience est extraordinaire pour moi, parce que c'est là qu'on voit le rôle des technologies dans l'éducation. Amadou Martambo part dans un village de basse Casamance, à côté de Oussoui, pour faire de l'éducation de base. Les villageois étaient d'accord dans un premier temps, il apporte toute son équipe. Et puis les villageois lui disent, ils ont consulté leur guide spirituel, leur a dit que sa venue n'était pas souhaitée, la venue de Maktambo. Amadou Maktambo alors se réunit avec les villageois. Il leur dit qu'ils n'ont pas respecté leur parole. Alors il est prêt à partir, mais qu'il aimerait bien faire une expérience avant de partir le lendemain. Qu'est-ce qu'il fait? Il convoque quelques personnes. Il projette des photos de ces populations. C'est la première fois de leur vie que ces populations se voyaient en photo. Il fait passer leur musique. Et donc tout le village commence à venir puisqu'ils n'avaient jamais entendu
un enregistrement.
Et ces populations sont venues. Et donc tous les villageois étaient là. Et le lendemain, il dit, bon, je vais partir. Il lui a dit, non, vous restez. Et donc, voilà le rôle qu'a joué la technologie pour pouvoir créer des conditions d'éducation.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Mbou est un militant engagé dans la compréhension et la transformation des terroirs. Parce que Amadou Mokhtar Mbou est quelqu'un qui pense la communauté comme l'unité la plus forte, si vous voulez, pour la transformation des sociétés africaines.
La voix de Mamadou Diouf, historien des idées et chercheur à l'Université de Columbia à New York. Mamadou Diouf réfléchit à l'invention de l'éducation de base par Amadou Matarumbo à l'aube des indépendances. Comment le jeune fonctionnaire de l'administration française a-t-il procédé pour initier sa propre bibliothèque africaine?
En fait, ce qui est le plus fascinant dans cette investissement qui définit, si vous voulez, à la fois la personnalité intellectuelle, la personnalité politique et sociale d'Amadou Mokhtar Mbou, c'est de considérer que la chose la plus importante à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'éducation et l'éducation des Africains. Et ce travail sur l'éducation est un travail qui impose, si vous voulez, une double interrogation, qui est l'interrogation de sa génération. On retrouve cette interrogation, par exemple, dans Clémier, le roman de Bernard Daguier, qui est publié en 1956. Et Daguier, qui est de la génération de Mbou. C'est-à-dire, c'est à quoi ils font face, et c'est pour ça que c'est une double interrogation. C'est d'une part, que faire des traditions africaines? Faut-il les enterrer et avancer? Ou faut-il retourner à un enracinement qui permette de s'ouvrir au monde? Deuxième interrogation. Et ce travail est un travail à la fois très complexe, mais aussi d'une certaine complication, si vous voulez. Par exemple, Daguier dit, si l'ethnologie nous amène à ne penser à l'Africain que comme un primitif. Et s'ils font l'éloge de ces traditions, le bon sauvage, devons-nous retourner à cela? Ou ne faut-il pas justement face à ce qu'on pourrait appeler la confrontation avec le monde moderne, ne faudrait-il pas nous repenser nous-mêmes? Qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait, une éducation? Et lui, la conclusion qu'il tire est une conclusion très intéressante. Et Amadou Mokhtar Mbou dit, en fait, les Européens nous excluent du temps du monde, mais ne veulent absolument pas que nous nous inscrivions dedans. Et il dit, les Africains doivent lire, ils doivent tout lire, ils doivent fréquenter les bibliothèques, parce que les Africains d'aujourd'hui, sa génération, sont à la confluence de deux traditions, la tradition africaine et la tradition coloniale. Et il va falloir inventer quelque chose. Et c'est cette invention de quelque chose et cette recherche justement des informations qui permettent ce nouvel engagement de l'Afrique à l'Afrique. C'est cela qui intéresse et qui importe à Amadou Mokhtar Mbou. Et il va le faire justement
par cette démarche qui est la démarche de l'éducation de base. Et cette éducation de base qui suppose un travail approfondi sur les sociétés africaines, qui couvre l'ensemble des registres, du mythe à la pratique, disons, quotidienne de nourrir les gens, sont effectivement ces éléments-là qu'il a essayé de comprendre contre l'ethnologie coloniale. Parce que ça, c'est aussi un autre engagement qui est très important de cette génération, se soulever contre les connaissances ethnologiques pour produire des connaissances qui ne sont plus des connaissances qui sont une partie des ressources de la bibliothèque coloniale. C'est-à-dire, il pensait fondamentalement que la rupture avec la colonisation supposait la production de nouvelles connaissances, des connaissances qui sont délestées de leur puissance idéologique, c'est-à-dire l'idéologie de la colonisation. Et donc, Mbo s'est attelé pendant un peu moins d'une dizaine d'années à collecter des informations sur l'ensemble des questions et à partir de ces informations, avoir une stratégie qui est une stratégie à la fois de réinscription des Africains dans les temps locaux, ce que j'appelle les temps locaux, mais aussi à partir de cette inscription dans les temps locaux, de leur ouverture sur le monde, les temps modernes.
Il faut dire que la méthode Mbo consiste d'abord à se documenter lorsqu'il part quelque part, dans un village, ensuite à rencontrer les personnalités et à créer les conditions de confiance et à trouver des décisions par le consensus.
Lamine Sagna, sociologue et biographe de Madou Matarambo.
Lorsqu'il est allé à Badiana, il y avait une mortalité infantile importante à Badiana et il s'est rendu compte que les femmes, lorsqu'elles accouchaient, couper le cordon ombilical, des fois avec un couteau.
Qui n'était pas désinfecté.
Il y a beaucoup d'enfants qui avaient le tétanos, mais on l'expliquait par les esprits qui auraient emporté les enfants, parce qu'ils n'avaient pas d'explication rationnelle. Et Amadou Maktarmbo, donc avec une équipe qu'il avait, des infirmiers et tout le monde, lorsqu'ils arrivaient dans un village, ils montraient aux femmes comment il fallait désinfecter, montrer. Et c'est ainsi qu'ils ont réduit la mortalité infantile. Les habitants de Badiana adorent Amadou Maktarmbo. Et ça, c'était en 1953, je pense, qu'il avait fait ces actions-là. Les descendants de ces populations, jusqu'à présent, l'admirent et viennent le voir très souvent. Un autre exemple assez intéressant, le professeur Didier Raoult, dont le père était lieutenant de l'armée, en 1953, Amadou Maktarmbo l'amène justement dans le cadre de l'éducation de base au village de Badiana, parce qu'il y avait beaucoup de cas de bilharziose. Le père de Raoult vient le voir à Badiana. Il lui demande d'abord de lui passer le plan du village et remarque qu'une partie des populations qui est proche de la mare n'a pas beaucoup de cas de bilharziose par rapport à l'autre partie. Pourquoi ? Il a remarqué que les canards mangeaient les coquillages qui transmettaient les bilharzioses. Et donc, ce qu'il a fait, à la fin, non seulement il les a soignés, mais aussi ils ont développé les canards dans tout le village. En fait, les populations casamancées, souvent, élèvent des canards, mais ils ne les mangent pas. Et donc, ces canards jouaient le rôle d'amortisseurs, si on peut le dire ainsi.
L'indépendance ne se donne pas, ça se prend.
Je proclame solennellement l'indépendance du Niger.
Je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta.
Je proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
L'affirmation de la personnalité, que dis-je, l'indépendance sénégalaise est une nécessité africaine.
Cha-cha-cha, indépendance à la communauté. Cha-cha-cha, anniversaire à l'indépendance.
Vous êtes bien sur RFI au son des indépendances et de tous les possibles, comme l'entrée des anciennes colonies à l'Organisation des Nations Unies ou encore l'élection d'un directeur africain à la direction de l'UNESCO. Mais qui aurait pu l'imaginer à l'époque? Et pourtant, cet homme existe. Il est sénégalais, il croit à l'éducation de base comme vecteur d'émancipation de tous les Africains colonisés. Son nom, Amadou Matarembo. Lui-même enseignant, il est déjà ministre de l'éducation, sans jamais oublier ce que lui a appris la Tijaniya, la confrérie musulmane à laquelle il appartient, c'est-à-dire l'humilité. Mais à l'époque, comment Mbo se situe dans le débat des idées qui agite les militants anticoloniaux?
Nous n'avions jamais nous séparés à l'époque. Notre combat pour l'Afrique de l'unité de l'Afrique. Je dois dire en toute franchise que nous ne concevions pas l'indépendance de l'Afrique dans le cadre d'États tels que ceux qui existent aujourd'hui. C'est un fait, bien sûr, le fait est là. Mais à l'époque, nous pensions que l'indépendance de l'Afrique devait être obtenue dans le cadre d'ensembles plus larges et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, au sein de l'Association des étudiants africains de Paris, de la Fédération des étudiants d'Afrique noire, comme d'ailleurs de certains groupes auxquels nous avons été mêlés, l'idée était que les ensembles fédéraux qui existaient à l'époque devaient être préservés et que l'indépendance devait se faire en même temps que l'unité de l'Afrique.
Ce qui est très intéressant dans cette marche vers l'indépendance, à laquelle participe largement Amadou Matarembo, il est l'un des acteurs de l'indépendance du Sénégal et plus largement de l'Afrique occidentale française. Il veut défendre la voix des Africains. Il veut notamment obtenir que Mamadou Dia, qui est à l'époque le président du Conseil, puisse justement présider toutes les réunions du gouvernement. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, nous ne sommes pas encore à l'indépendance. Oui. C'est le gouverneur, donc oui. Français, oui. Qui préside ces réunions. Donc là déjà, nous ne sommes pas encore à l'indépendance, mais on voit bien qu'il y a des combats, des batailles qui sont menées avant de gagner la guerre. Il faut gagner des batailles.
Tout à fait. Lamine Sagnor. C'est vrai. Dans le cadre de la loi cadre, on avait mis en place une autonomie des pays, notamment du Sénégal. Il se trouvait que dans un premier temps, la première année de la loi cadre, on a voulu que le gouverneur préside le conseil et que Mamadou Dia, qui était le vice-président, mais un an après, Amadou Matarembo et ses amis ont mené la campagne pour que ça ne soit pas possible, puisque eux, ils étaient élus, alors que le gouverneur était désigné. Et donc, c'est ainsi que la seconde année de la loi cadre, à partir de 1957, a été dirigée par un président du conseil qui est Mamadou Dia. Ça aussi fait partie du bilan de Amadou Matarembo. Et ses amis.
Je vois que Dakar est une ville vivante et vibrante. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Mais s'ils ne la prennent pas, qu'ils la fassent. En toute indépendance de l'Afrique et de la France.
Quand le général de Gaulle vient en campagne à Dakar en 58, il y a le fameux épisode des porteurs de pancartes.
Oui.
Les porteurs de pancartes, ce sont les manifestants et Amadou Matarembo n'est pas présent, mais ses amis du PRA Sénégal, parti pour le Rassemblement africain, sont présents, ils portent des pancartes. Alors, comment il faut s'imaginer cette manifestation et quel est le rôle du PRA Sénégal?
C'est vrai qu'Amadou Matarembo était en visite officielle aux États-Unis au moment où De Gaulle venait au Sénégal. Mais tous les membres de son parti ont porté les pancartes pour dire qu'eux, ils ne sont pas pour la communauté avec De Gaulle, ils étaient pour le non. Je pense que il serait là-bas, il aurait voté non aussi, il aurait porté les pancartes sans doute, puisque Amadou Matarembo, ministre de l'Éducation nationale à cette époque de la loi cadre, vu la position officielle du Sénégal de dire oui à De Gaulle, décide de quitter le gouvernement pour ensuite repartir enseigner dans un lycée à Saint-Louis.
Donc ça va être en quelque sorte la traversée du désert pour Amadou Matarembo.
Ah oui, c'était la longue traversée du désert, d'autant plus que lorsqu'il est allé à Saint-Louis, toujours dans la lutte politique contre le régime de Dia et Senghor, il a été suspendu de ses fonctions d'enseignant à un moment donné.
Donc il y a une répression assez importante, oui, des adversaires à Senghor et à Dia, et finalement des adversaires de la France.
Absolument.
Puisque... Est-ce qu'il faut expliquer ça à la jeunesse? Parce qu'on ne fait pas le lien de façon évidente. Senghor, c'est le premier président du Sénégal indépendant. Mmh. La lutte du Pras Sénégal, le parti dans lequel Amadou Matarembo est investi contre Senghor et contre Mamadou Dia, c'est aussi un parti finalement qui est contre la France, puisqu'ils ne veulent pas de cette communauté avec la France proposée par De Gaulle. Ils veulent l'indépendance immédiate. Est-ce qu'à l'époque, finalement, être contre Senghor, c'est être contre De Gaulle? Être contre De Gaulle, c'est être contre Senghor?
Au moment où Amadou Matarembo et ses amis étaient contre Senghor et Dia, ils remettaient en cause les principes à partir desquels on voulait bâtir l'indépendance du Sénégal.
C'est-à-dire
les Senghor étaient pour le franc CFA qui était en relation avec la Banque de France. Amadou Matarembo était contre, il voulait une indépendance à tous les niveaux. Et donc être contre Senghor et Dia signifie être contre De Gaulle, puisque Senghor et Dia appuyaient la proposition de De Gaulle.
Comment, évidemment, ce parcours de jeunesse, ce parcours de formation détermine ce qui sera, je dirais, la méthode Mbo, on l'a compris, il est une méthode pour l'éducation, mais il a presque une méthode aussi pour la politique.
Oui, la méthode de Mbo, je pense que c'est le consensus, la recherche du consensus. On l'a vu dans le cadre de l'éducation de base, mais aussi chercher à fédérer des adversaires sur le plan politique. Je pense que chez Amadou Matarembo, la chose la plus importante, c'est le dialogue. Essayer de trouver des consensus pour pouvoir réaliser les objectifs d'indépendance, mais aussi d'émancipation des populations. Je pense que chez Amadou Matarembo, il est important de savoir que toute décision doit faire d'abord l'objet d'une large discussion et essayer de toujours trouver les moyens de consensus, puisqu'il faut avoir à l'esprit toujours l'idée de tolérance, mais aussi des contradictions. Il me semble que ces lectures de jeunesse de Max lui ont aidé beaucoup pour trouver ces façons de faire la dialectique et trouver des consensus.
Amadou Matarembo, premier directeur africain de l'UNESCO, c'était le premier épisode de notre documentaire signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin. La suite la semaine prochaine et en attendant, bonne lecture du livre de Lamine Sania publié aux éditions Caran, Amadou Matarembo, une légende à raconter, 75 ans après la création de l'UNESCO. L'atelier des